Europe 1. Écoutez le monde changer.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. L'État s'est beaucoup endetté depuis un an à cause des deux confinements, du couvre-feu, du chômage partiel, des aides d'urgence aux entreprises, du manque à gagner en taxes et en impôts. Alors est-ce que c'est grave? Devrait-il être plus économe? Faut-il annuler nos dettes, comme certains le demandent? On va voir ça avec Anton Brender, un économiste qui a le mérite d'expliquer les choses clairement. Je recevrai ensuite Patrick Joss, le directeur de la climatologie à Météo France. Météo France qui vient de publier des projections climatiques pour toute la France, région par région jusqu'à la fin du siècle. Il va nous faire le bulletin de la météo nationale en 2050. Et enfin, l'on terminera l'émission avec Joyce Sormand qui publie « À la folie ». Elle vient de passer un an à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique, en observatrice, en écrivain. Elle va nous raconter. L'année du Covid s'est achevée par un déficit de 178 milliards, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Les dépenses de l'État ont augmenté de 44 milliards en 2020 et les recettes ont baissé de 37 milliards. Il faut donc emprunter cette année 260 milliards sur les marchés financiers qui viendront s'ajouter à une dette totale de l'État de 2000 milliards. Alors est-ce bien raisonnable, se demandent certains, qui va payer, tandis que d'autres voudraient voir annulée par la Banque Centrale Européenne la dette publique contractée à cause du virus. Un débat qui n'a pas lieu d'être d'après Anton Brender. Bonjour Anton.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de « Capitalisme et progrès social à la découverte ». Vous êtes le chef économiste de Candriam Investors Group et vous l'avez expliqué cette semaine dans le quotidien Les Échos. « Il est une vérité qu'il faut toujours rappeler, écrivez-vous, un État ne doit pas rembourser ses dettes. Il doit seulement rester toujours capable de payer la charge des intérêts. » Alors qu'entendez-vous par « un État ne doit pas rembourser ses dettes »
Il faut quand même juste rappeler qu'un État, à la différence d'un particulier, il est éternel. Autrement dit, il est là pour toujours, son économie croît, il peut lever des impôts, c'est lui-même qui décide du taux des impôts qu'il prélève. Et on ne lui demande pas de rembourser sa dette au sens de demain ne plus avoir de dette. On lui demande simplement d'être en permanence capable de payer les intérêts sur sa dette. Et s'il paye les intérêts sur sa dette, eh bien, on continue de lui prêter, il rembourse, il réemprunte, il rembourse, il réemprunte. Tant qu'il est capable de couvrir la charge d'intérêt de sa dette, il peut s'endetter, il n'a pas besoin de diminuer le montant de sa dette. C'est juste ça que j'essaie d'expliquer.
Oui, parce que c'est très clair. Et la charge des intérêts, dites-vous, a été divisée par 3 depuis 25 ans. Ça ne représente plus qu'un point du PIB.
C'est exactement une des grandes différences entre aujourd'hui et il y a une trentaine d'années, c'est que les taux d'intérêt ont beaucoup baissé, ce qui fait qu'avec le même poids de dette, on paye beaucoup moins d'intérêt. En fait, en France, on a une dette qui n'a pas arrêté de monter et notre charge d'intérêt, depuis 1995, elle a été pratiquement divisée par 3 si on regarde non pas le montant des intérêts qu'on paye, mais le rapport entre ce montant d'intérêt et le PIB.
Alors dans ce cas, dites-vous, pourquoi se battre pour faire annuler une partie de la dette par la BCE qui la détient? Ça n'a aucun intérêt. Effectivement, maintenant que vous nous l'avez expliqué, on le comprend mieux. Mais moi, la question que je me pose toujours, c'est pourquoi calcule-t-on la dette de l'État en pourcentage du PIB, qui est la richesse produite par toute la nation, hein. Quand je m'endette, en tant que particulier auprès de ma banque, on me demande ce que je gagne chaque année, pas ce que gagne tout mon village.
Bien sûr que non, mais l'État, la grande différence entre vous et l'État, c'est que l'État, il a une capacité à prélever un impôt sur tout le village, c'est-à-dire la France. Et donc, ce qui intéresse le bon dénominateur, quand on veut voir si on est en état de payer, c'est quel est le PIB du pays, le revenu du pays, sachant que l'État est capable de prélever une partie de ce revenu pour rembourser sa dette et pour payer les charges d'intérêt, et surtout pour couvrir ses dépenses.
D'autre part,
ce ratio au PIB, au revenu global, qui est important. En France, il faut savoir aussi que la dépense publique représente déjà une part importante du PIB.
Oui. D'autre part, on se demande pourquoi ce qui était très mal vu par l'orthodoxie financière il y a un peu plus d'un an, vous en souvenez, ce fameux pacte de stabilité qui voulait que le déficit public ne dépasse pas 3%, sinon on était voué aux gémonies, ben ça ne pose plus aucun problème aujourd'hui. Comment on justifie un tel revirement à 180 degrés ?
Ça, il faut demander à ceux qui ont reviré à 180 degrés comment ils le justifient. Non, je plaisante, mais il y a beaucoup de gens qui expliquent depuis longtemps que cette limite de 3%, ces objectifs de 60% du PIB, sont totalement en dehors de ce qui est justifiable de façon extrêmement rationnelle. On a défini ces objectifs il y a une trentaine d'années, même un peu plus, lorsqu'on a conçu l'euro, on a dit ben, 60% de dette sur PIB, c'est le bon rapport. 3 points de déficit, c'est aussi le bon rapport qu'il faut maintenir. Et entre-temps, le monde a complètement changé. On était dans un monde où les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés que ceux qu'on a. On est aujourd'hui dans un monde où on paye un certain nombre d'entités pour qu'elles empruntent. Hein, les taux négatifs, ça ne veut rien dire d'autre que d'être payé pour emprunter. Hein, c'est le cas aujourd'hui même de l'État français, malgré le montant des dettes dont on parle. Et donc, on n'a pas réalisé à quel point ce monde dans lequel, en fait, on cherche des emprunteurs est différent de celui dans lequel on a fait le pacte de stabilité et de croissance, le traité de Maastricht, toutes ces choses-là étaient conçues dans un monde complètement différent de celui dans lequel nous vivons. Ce que je dis, c'est non pas qu'il n'est pas que la charge d'intérêt est dérisoire, ni même que l'endettement public ne compte pas. Je dis simplement que dans ce nouveau monde, qui est là depuis maintenant plusieurs années, depuis une quinzaine d'années presque, eh bien, il faut reconcevoir la façon dont on règle nos politiques budgétaires. Et c'est ça que j'essaie de souligner. C'est moins un combat avec la Banque centrale qu'avec les règles qui contraignent de façon absurde.
Et qui continue, hein, parce qu'on les a mis entre parenthèses du fait.
Et c'est pour ça que le vrai sujet aujourd'hui, excusez-moi, c'est précisément. On a eu la sagesse, il faut quand même le rappeler. Si nos États aujourd'hui s'endettent pour soutenir ceux qui ont perdu leur emploi, pour soutenir l'activité malgré la pandémie, ils ont tout à fait raison de le faire. C'est parce qu'on a quand même eu la sagesse de faire jouer ce qu'on appelle la clause de sauvegarde, c'est-à-dire de mettre entre parenthèses ces règles. Mais, et c'est ça, moi je dis qu'elles
sont toujours
la priorité, elles sont toujours là. Et dès l'été, il va falloir se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec nos budgets pour l'année 2022. Hein ? Est-ce qu'on s'astreint à revenir dans ce cadre qui est obsolète ? Ou bien est-ce qu'on se donne la peine, et je pense que ça en vaut la peine, de repenser ce cadre de façon à l'adapter à la fois aux défis que nous devons relever, et il y en a beaucoup, et aussi aux nouvelles conditions financières qui sont pas forcément là éternellement, mais qui sont là aujourd'hui, on continue d'avoir la possibilité d'emprunter à des taux qui sont beaucoup plus bas que le taux de croissance de notre économie.
Vous restez avec nous, Anton Brender, on fait une pause, on se retrouve juste après, j'ai encore beaucoup de questions à vous poser.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Anton Brender, qui est chef économiste chez Candriam Investors Group et qui est l'auteur de Capitalisme et progrès social aux éditions de La Découverte. Anton Brender, on a compris, il se trouve que l'on emprunte aujourd'hui à des taux très très bas, voire négatifs, moins 0,54% pour les emprunts à court terme, moins 0,11% pour le moyen et le long terme, ça c'est pour la France, hein. Mais ça peut remonter. Et ces taux d'intérêt, ils peuvent remonter. Si ça remonte, ça changera quoi pour la charge de la dette, justement ?
Ça fera effectivement petit à petit une différence. Il faut savoir qu'actuellement, une partie de la dette, vous venez de le rappeler, c'est une dette à relativement long terme. C'est-à-dire qu'on bénéficie de ce taux négatif pour une partie des sommes qu'on est en train d'emprunter, mais on en bénéficie pour un des derniers emprunts qu'on a fait, c'est pour 50 ans. Donc il y a pendant 50 ans, la garantie sur une partie, hein, une toute petite partie de notre dette, de bénéficier d'un taux négatif. Et en permanence, on renouvelle notre dette et on la renouvelle à des taux qui sont beaucoup plus bas que ceux qu'on avait, auxquels on avait emprunté précédemment. Maintenant, si demain les taux montent, eh bien, il faudra faire attention, bien sûr, parce que à ce moment-là, il faudra ralentir le rythme auquel on s'endette. Ce sera le signal qu'on est en train de basculer dans une situation où au lieu de d'être à la recherche d'emprunteurs, et ben petit à petit on trouve des emprunteurs et du coup on demandera aux États d'un peu moins s'endetter. C'est pour ça que j'insiste aussi sur le fait que on a une fenêtre d'opportunité qu'il faut utiliser le plus intelligemment possible. Et demain, c'est-à-dire d'ici 2-3 ans, les taux peuvent monter peut-être, mais entre-temps, je crois qu'il faut qu'on utilise au mieux les ressources publiques, non seulement celles qu'on emprunte, mais celle dont on dispose. On a une responsabilité énorme aujourd'hui qui est de préparer l'avenir des générations suivantes. Et ça passe pas uniquement par l'endettement, mais ça passe par le bon emploi des ressources dont dispose notre budget. Et c'est ça, normalement, que j'essaie de souligner, c'est qu'il faut pas se battre pour demander à la BCE d'annuler les 20 points de dette qui viennent de nous arriver, mais il faut se battre pour gérer mieux nos budgets et éventuellement emprunter pour utiliser à bon escient ce qu'on emprunte.
Ça semble quand même, pour la plupart des gens, absolument miraculeux de pouvoir s'endetter avec des intérêts à des taux négatifs. Pourquoi nous paye-t-on pour qu'on emprunte ? Écoutez, ça semble dingue que l'on puisse s'enrichir
Je veux pas paraître scolaire, mais une des explications qui était donnée du fait qu'il est normal que les taux d'intérêt soient positifs, parce que finalement, pourquoi est-ce que les taux d'intérêt sont positifs? Ben, tout simplement parce que quand vous prêtez de l'argent, vous renoncez à l'utiliser tout de suite. Et du coup, on doit vous compenser parce que normalement, on préfère toujours consommer aujourd'hui plutôt que consommer demain ou dépenser aujourd'hui plutôt que dépenser demain. D'accord ? Ça, c'est ce qui justifie qu'on ait à payer pour pouvoir avoir tout de suite de l'argent à dépenser. Maintenant, si c'est le contraire, qu'on est dans un monde où les taux sont négatifs, c'est parce qu'il y a énormément de gens qui veulent s'assurer non pas de pouvoir dépenser aujourd'hui, mais de pouvoir dépenser demain. Ils veulent reporter le pouvoir d'achat qu'ils ont, ils veulent le reporter dans le temps. Parmi ceux qui nous financent, vous avez par exemple les pays du Golfe, vous avez des fonds souverains. Qu'est-ce qu'ils font ces fonds souverains? Ils mettent de l'argent de côté pour les générations futures. Et ce qu'ils veulent, c'est être sûr de le retrouver. Et donc ils cherchent des emprunteurs dans lesquels ils aient confiance et qui demain les rembourseront. Je crois que c'est quelqu'un de l'Agence française du Trésor qui disait, eh ben, aujourd'hui, un certain nombre d'États, un certain nombre d'emprunteurs sont comme des coffres-forts dans lesquels on met de l'argent qu'on veut être sûr de pouvoir retrouver demain.
Oui,
et ça, c'est un énorme avantage qu'on a. Et ça fait partie de ce changement de contexte financier mondial dans lequel on est depuis maintenant plusieurs années.
Oui,
on a voulu l'ignorer.
Mais alors, pourquoi ne pas emprunter 500 milliards au lieu de 260? Ça financerait la recherche française, qui est dans un état déplorable, les hôpitaux, l'industrie, bref, tout ce qui marchait mieux avant.
Justement, mais c'est là tout le danger, parce que si vous avez... Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on dit qu'on peut s'endetter à taux négatif. Il ne faut pas comprendre qu'on peut s'endetter à tout va. Parce que la vraie difficulté, c'est quoi? C'est de bien utiliser l'argent qu'on emprunte. Et déjà, d'abord, celui qu'on lève via l'impôt. Et avant d'emprunter, il faudrait déjà, il aurait fallu s'assurer qu'on dépense bien les ressources qu'on prélève déjà. Quand l'État prélève la moitié du PIB, est-ce qu'on est sûr qu'il utilise bien l'argent qu'il dépense? Si c'est le cas, et c'est pas toujours le cas, eh bien, à ce moment-là, ça vaut la peine d'emprunter un peu plus. Mais on peut pas dépenser comme ça 500 milliards de plus. Hein, c'est de l'argent qu'on risque de jeter un petit peu n'importe comment, n'importe où. On n'est pas en état de dépenser des sommes folles. La pandémie, c'est quelque chose de particulier. Mais sinon, si on veut le dépenser à bon escient, il faut se donner le temps de le faire. Donc, on peut pas conclure de ce que je dis, qu'on peut emprunter ce qu'on veut, qu'il n'y a pas de problème, voyez.
On sait jusqu'où vous avez calculé, vous, d'après vous, jusqu'où la France pourrait s'endetter?
Dans les conditions actuelles, elle peut s'endetter de façon relativement illimitée. Illimitée au sens où si on augmente de 10 points de dette en plus, Il n'y a pas de problème, mais tout dépend. Non, on ne peut pas le calculer. Il ne faut pas se tromper sur ce que ça veut dire. On disait au début qu'un État doit être toujours en état de payer les intérêts de sa dette. Eh bien, rien que ça, c'est une condition. Si demain les taux devaient monter, il faut qu'on soit en état de freiner la hausse de notre charge d'intérêt, c'est-à-dire d'arrêter l'augmentation de notre dette. Et si on veut arriver à faire ça, il va falloir dégager des excédents budgétaires. Et donc, ce qui limite notre capacité d'endettement, c'est la capacité qu'on aura demain à expliquer à nos populations, qui errent effectivement, la population française, qui errent effectivement, les taux étaient bas, on pouvait s'endetter, mais aujourd'hui, les taux sont en train de monter, et si on veut pas être entraîné dans une spirale infernale, eh bien, il faut arriver à réduire certaines dépenses ou à monter certains impôts. Ça demande beaucoup de courage politique, hein, d'aller trop loin dans cette direction aussi. Les taux sont bas aujourd'hui, ils sont nuls, on peut s'endetter. Si on le fait à bon escient, on n'aura pas de difficultés. Si on le fait à mauvais escient, on aura demain des difficultés. Et c'est ça, si vous voulez, le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment mieux gérer nos budgets. Si on a des bonnes dépenses à faire, eh bien, c'est le moment de les faire.
Merci Anton Brender, je renvoie à votre livre dans lequel vous expliquez tout cela en détail, Capitalisme et progrès social, qui est paru à la Découverte. On se retrouve dans 2 minutes 40 avec Patrick Joss qui va nous faire un bulletin météorologique de la France, un bulletin national, mais pour dans 30 ans.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadéhi.
Météo France a donc publié le 1er février des projections climatiques pour la France au XXIe siècle. Bonjour Patrick Joss, vous êtes le directeur de la climatologie à Météo France. Vous avez travaillé sur ce rapport. Alors on a l'habitude d'entendre dire qu'il fera 2 degrés de plus sur la planète en moyenne. Mais là, vous nous montrez qu'on peut calculer des températures et leurs conséquences région par région, hein.
Effectivement, c'est l'apport de ces nouvelles projections climatiques par rapport à celles dont on a l'habitude dans les travaux du GIEC, par exemple, hein, qui sont à l'échelle de la planète. Là, on est sur ce qu'on appelle des projections climatiques régionales, donc qui couvrent à peu près l'échelle de la métropole dans le cas qui nous occupe ici.
Alors, vous avez travaillé selon 3 scénarios en fonction des émissions de CO2, si elles sont faibles, modérées ou si elles augmentent de manière ininterrompue. Vous dites dans ce rapport que jusqu'en 2050, le réchauffement va se poursuivre sur sa lancée. C'est après que cela risque de s'aggraver ou de s'atténuer d'ailleurs.
Effectivement, c'est une sorte d'effet retard, si vous voulez, qui est lié à l'inertie de la machine climatique. Pour schématiser, ce qui va se passer d'ici le milieu du siècle résulte d'émissions de gaz à effet de serre déjà réalisées. En revanche, ce qu'on va émettre à partir de maintenant va conditionner l'évolution de la suite sur la deuxième partie du siècle pour arriver à des futurs qui peuvent être très différents en fin de siècle, et c'est ce que montre ce rapport.
Alors, dans les 3 scénarios, c'est à la montagne, dans les Alpes et les Pyrénées, que la météo va le plus changer, hein.
Alors, en termes de réchauffement, effectivement, c'est des zones qui sont dans lesquelles le réchauffement, va être un peu plus important. Alors, pour une raison assez simple, hein, c'est ce qu'on appelle l'effet albédo. C'est le même principe que quand vous portez un t-shirt noir plutôt qu'un t-shirt blanc. Le réchauffement va provoquer la fonte des neiges, moins de réflexion et donc un peu plus de chaleur encore. Et comme par ailleurs, c'est des territoires qui sont à réchauffement égal plus vulnérables. Il y a des aspects biodiversité spécifiques, par exemple, mais aussi économiques. Et on pense au tourisme hivernal en particulier. C'est des zones à effectivement regarder de très près.
Alors justement, est-ce qu'il pourrait ne plus y avoir de neige ?
Alors, il faut nuancer la réponse. En fin de siècle, c'est effectivement à moyenne altitude, s'entend, hein, on pourra conserver de l'enneigement même dans un scénario pessimiste à plus haute altitude, mais en moyenne montagne. On pourrait avoir dans le scénario pessimiste, hein, donc avec des émissions fortes de gaz à effet de serre, on pourrait avoir une diminution de l'enneigement de l'ordre de 80%.
C'est quand même terrible d'imaginer qu'il n'y ait plus de neige dans les Alpes ou dans les Pyrénées.
Alors encore une fois, c'est à nuancer en fonction de l'altitude, mais en tout cas, ça pose de façon très très claire et très concrète des enjeux de ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique, avec des territoires et des activités qui vont devoir évoluer et dans certains cas se réinventer, effectivement.
Les étés risquent d'être caniculaires sur la Côte d'Azur, mais aussi dans la vallée du Rhône, dans la vallée de la Garonne. Jusqu'à présent, les nombres de jours de canicule à la fin du 20e siècle, par exemple, c'était 3 ou 4 par an. Ça pourrait monter à 20 ou 35 par an.
Alors, c'est ça. Là, on est sur les chiffres que vous indiquez sont effectivement ceux qui sont donnés dans le rapport, hors zone méditerranéenne.
Ah, pardon.
C'est-à-dire que sur l'ensemble du territoire, là, on connaît déjà des canicules, mais de façon moins fréquente. Voilà, l'ordre de grandeur dans ce scénario à émissions fortes pourrait aller jusqu'à plus 20 à 35 jours de canicule par an. Sur l'arc méditerranéen étendu à Vallée du Rhône et Vallée de la Garonne, qui sont déjà aujourd'hui les zones les plus touchées par ce type de conditions, les choses peuvent se présenter de façon un petit peu différente. Là, on pourrait avoir des canicules, hein, des périodes de très forte chaleur ininterrompues pendant plus d'un mois, par exemple.
Vous parlez de pointe à 50 degrés, c'est du jamais vu, 50 degrés.
50 degrés, c'est effectivement du jamais vu aujourd'hui. Hein. Il y a le record en métropole assez récemment. D'ailleurs, c'était juin 2019 dans l'Hérault, c'était 46 degrés. Mais l'évolution des températures moyennes dans un scénario pessimiste sur laquelle viennent se superposer des épisodes intenses rend effectivement plausible de façon ponctuelle des températures qu'on connaît aujourd'hui plutôt en Afrique du Nord que sur notre territoire.
Et la nuit ? La nuit, ce serait des nuits tropicales, des nuits à plus de 20 degrés ?
Alors effectivement, l'appellation nuit tropicale, c'est ça. C'est des nuits à plus de 20 degrés, Alors, avec un inconfort, si on veut, mais aussi un impact sanitaire, hein, parce que sur une canicule, c'est presque autant le non rafraîchissement la nuit que les températures maximales en journée qui fatiguent les organismes. Même chose, un gradient, une variation du nord au sud. Les nuits tropicales qui sont aujourd'hui très 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 rares, pour ne pas dire exceptionnelles, sur la partie la plus nord du pays, deviendraient relativement fréquentes. Et là où elles existent déjà, elles deviendraient, alors peut-être pas la norme, hein, mais en tout cas plus 30 à 50 jours, voire jusqu'à 90 jours sur le pourtour méditerranéen.
Et
On pourrait imaginer.
la Bretagne, la Normandie, les plages du Nord, ce sera comment?
Bah sur cette frange nord ou nord-ouest, on va passer d'une situation où les nuits tropicales sont extrêmement rares. Elles vont commencer à apparaître, peut-être une dizaine à une vingtaine de jours par an.
Ceux qui disent que ce sera la Côte d'Azur en Bretagne et en Normandie, au fond, n'ont pas tort.
Alors, faut être prudent sur ce type d'approche. On appelle ça les analogues, hein, les analogues climatiques. On peut effectivement, ça peut donner un côté tourisme pas désagréable, hein, tel que ce que vous venez de dire. Mais voilà, c'est vraiment des climats qui se modifient et des organismes, quelquefois des infrastructures qui sont pas habituées à ce type de conditions. Mais effectivement, on a des glissements géographiques de conditions climatiques.
On fait une pause de 2 minutes 40. Patrick Josse, on se retrouve juste après. Vous allez nous raconter la suite.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Patrick Josse, le directeur de la climatologie à Météo France. Météo France qui a publié le 1er février des projections climatiques pour la France au 21e siècle. Une sorte de bulletin météo national, mais pas pour demain, pour dans 30 ans. Alors Patrick Josse, les vagues de froid, est-ce qu'elles vont être plus rares?
Alors oui, absolument, à coup sûr. Les vagues de froid, alors si vous me permettez, je dirais qu'elles sont déjà plus rares. Hein. Les conditions de froid qu'on a connues il y a quelques jours, on en a beaucoup parlé, elles ont beaucoup marqué. Météorologiquement, quantitativement, si on regarde les températures, c'est sans commune mesure avec des conditions qu'on a connues il y a quelques années. Donc l'importance qu'on accorde à ces conditions aujourd'hui, la façon dont on en parle, c'est déjà l'indice d'une diminution, hein, d'une raréfaction, pardon, de ces conditions. Ça va se poursuivre avec, encore une fois, suivant les scénarios d'émission. Dans tous les cas, on a une diminution des vagues de froid et même des jours de gel qui va être d'autant plus forte que les émissions de gaz à effet de serre resteront à un niveau élevé. Et
Mais
avec des émissions élevées en fin de siècle, même des conditions de gel sur une large moitié de la France deviendront exceptionnelles.
Là, oui, j'ai lu des vagues de froid qui pourraient se réduire à un jour ou deux par an.
C'est ça, et même sans aller jusqu'à des vagues de froid, même le simple fait d'avoir des conditions où il gèle pourra devenir extrêmement rare en fin de siècle dans un scénario, qui n'est pas celui qu'on souhaite, mais qui est dans un scénario qu'on a étudié.
Et la neige hors montagne, ça devient presque inimaginable alors.
Alors sur l'enneigement, la tendance est effectivement celle-là, et l'intensité va dépendre en deuxième partie de siècle des émissions et de ce qu'on aura su faire d'ici là pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Mais oui, un chiffre, c'est en scénario pessimiste, autour de 1800 mètres, une diminution de l'enneigement de 80%. Donc on pourra tourner je dirais les sports d'hiver seront toujours possibles, mais sans doute moins plus haut en altitude et sur une période de l'année beaucoup plus courte.
Et la neige à Paris, ça deviendra très très rare.
La neige en pleine deviendra complètement exceptionnelle.
Et la pluie alors, est-ce qu'il y en aura davantage l'hiver et moins souvent l'été?
Alors sur les si on commence à regarder d'un petit peu de loin avant d'aller dans le détail, sur la quantité totale de pluie au cours de l'année, il n'y a pas de tendance très très marquée. On est sur des variations très faibles et puis beaucoup d'incertitudes. En revanche, on voit apparaître, vous avez raison, une variation géographique, hein, avec plutôt une tendance à l'augmentation des précipitations au nord et une diminution au sud, mais pas dans des proportions énormes, hein. Et même chose selon les saisons, hein, avec des différences où la tendance serait plutôt à des précipitations plus importantes l'hiver, plutôt en augmentation l'hiver et plutôt en diminution l'été. Et par-dessus, comme on l'a dit pour les températures et les canicules, les événements extrêmes, hein, donc les précipitations intenses, qui seront dans tous les cas en augmentation, et ce d'autant plus que les émissions de gaz à effet de serre resteront élevées. On pourrait avoir des précipitations intenses plus fréquentes de 30 à 50% en fin de siècle dans les scénarios, dans le scénario le moins favorable.
Oui, donc je ne sais pas si j'habite Lille, il y aura des pluies plus fortes, a priori. Mais est-ce que pour autant, il y aura dans le nord, par exemple, des risques d'incendie plus grands l'été?
Alors c'est un petit peu le paradoxe, effectivement, on vient de parler de précipitations intenses plus élevées, mais avec ces contrastes qui augmentent, on aura aussi des périodes de sécheresse, hein, de sécheresse des sols superficiels et donc de la végétation plus longue et plus intense, et donc le risque d'incendie de forêt ou de couvert végétal va augmenter, devenir, je dirais, encore plus important dans les zones où il est déjà présent, hein, l'arc méditerranéen, bien sûr, les Landes, mais les projections commencent à faire apparaître ce risque dans des zones où il est presque inconnu aujourd'hui, hein, même en Bretagne ou dans les forêts de la Sologne, par exemple.
En fait, la morale de tout cela, Patrick Josse, c'est qu'il va falloir s'adapter à tous ces changements, hein, car certains vont avoir lieu quoi qu'il arrive.
Alors, il y a deux morales de cette histoire, pour reprendre votre expression. La première, elle est pour les décennies qui viennent, où on doit avoir conscience que certaines évolutions maintenant sont inéluctables, qu'il faut s'y adapter et faire des choix de façon à ce que ça se passe le mieux possible. Et je prenais tout à l'heure l'exemple de la ville, hein, des réflexions qu'on peut avoir sur l'évolution de l'organisation urbaine. On commence à réfléchir à des îlots de fraîcheur pour pouvoir se mettre un petit peu à l'abri en situation de canicule. Donc là, on est sur de l'adaptation au changement climatique. Mais aussi, en même temps, et c'est là que effectivement c'est difficile, avoir conscience que on doit aussi par tout un ensemble de choses, hein, c'est des comportements individuels à des évolutions sociétales. On a encore des cartes en main pour que le futur se rapproche plus du scénario qualifié d'optimiste, hein, qui est un scénario proche des accords de Paris, plutôt que du scénario émissions fortes qui arrive aux chiffres les plus extrêmes que j'ai cités. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'atténuation.
Patrick Josse,
Oui.
ce rapport, enfin je parle d'un rapport, on l'appelle le DRIAS, est-ce que le grand public peut se le procurer sur Internet? Est-ce que chacun peut consulter, aller voir son département, sa région?
Alors, le rapport, alors DRIAS, c'est à la fois un rapport, un jeu de données, et puis un site internet, un portail, un site web, donc qui est accessible en ligne, évidemment, de façon complètement libre et gratuite, hein. Il y a ce sigle à retenir, DRIAS, et on peut à la fois consulter de façon cartographique, hein, tous les chiffres, les indicateurs, les paramètres météorologiques ou climatiques que je viens de donner ici. On peut zoomer sur sa région, sur son département. On peut télécharger les données si on le souhaite, et on peut bien sûr télécharger le rapport, le document, hein, ce document d'une centaine de pages qui a été publié en début de semaine.
Merci beaucoup, Patrick Josse. On se
Je vous en
retrouve
prie.
Dans un instant avec Joyce Ormond.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Joyce Ormond.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous avez reçu le prix de Flore pour Boys, Boys, Boys. C'était votre premier roman en 2005. Aujourd'hui paraît À la folie, votre 10e livre. Pour l'écrire, vous vous êtes rendu pendant un an dans un hôpital psychiatrique. Vous pouviez y circuler librement. Vous avez également pu interroger ce qu'on appelle les fous et ceux qui les soignent. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça?
Ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est que la folie et l'hôpital psychiatrique me semblaient être une espèce de fait total pour un écrivain, un sujet idéal. D'abord parce que la folie, c'est une aventure du langage, c'est le langage qui se dérègle, c'est l'affrontement entre le langage des médecins et le langage des fous. Donc pour un écrivain, le langage, c'est toujours intéressant, parce que c'est évidemment une manière de rentrer dans la société, c'est un fait politique et social. On a coutume de dire qu'on juge l'état d'une société à la façon dont on traite ses fous. Alors on pourrait dire aussi c'est vieux, c'est prisonnier, mais en tout cas c'est marginaux. Donc voilà, il y avait cet angle politique et social. Il y avait le désir aussi d'une aventure personnelle, d'une immersion personnelle, de passer un an au contact de ce monde, voilà, opaque et mystérieux. Et puis c'est un lieu, même si le livre est un récit documentaire, c'est un lieu extrêmement romanesque parce que les fous sont déjà immédiatement dans la fiction. Ils réinventent le réel, ils réinventent leur vie. Donc tout était là finalement comme appât pour l'écrivain que je suis.
Au fond, quand je vous écoute, je me dis vous auriez pu travailler sur le coronavirus parce que là aussi c'est un fait total. Hein. On y est depuis un an aussi, c'est romanesque, il y a un rapport entre le réel et la fiction. Au fond, ça aurait marché de la même manière peut-être.
Oui, tout à fait. Et puis, ce sont en plus ces faits à la fois humains, sociétaux, médicaux. Et puis surtout, c'est cette opacité dont on parlait tout à l'heure avec le coronavirus. On est aussi en plein dans le mystère et l'incompréhension. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose à percer, il y a quelque chose à élucider aussi avec le coronavirus.
La tendance dans la littérature française depuis quelques années, c'est de romancer la biographie des gens célèbres. On se met à la place de Marilyn Monroe, de Brigitte Bardot, d'une héroïne de faits divers. Vous avez choisi de vous intéresser à Jessica, Maria, Catherine, à Youssef ou à Barnabé. Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre et pourquoi vous aimez les fous ?
Alors, pourquoi j'aime les fous, je n'ai pas encore fait d'analyse, donc je vais avoir du mal à répondre. Et je n'ai pas d'éléments biographiques dans ma vie qui me rattachent à la folie. Donc, mais c'est vrai que j'ai une espèce d'inclinaison comme ça pour les fous, une empathie. Mais je crois que je les aime pour les raisons que je disais tout à l'heure, parce que j'aime leur langage déréglé, j'aime leur mystère. Et je pense que la littérature, elle n'est pas là pour élucider, elle n'est pas là pour rendre les choses lumineuses, mais au contraire, elle est pour compliquer encore plus la vie et la réalité. Et avec les fous, les choses sont encore plus compliquées. Et puis ce que j'aime aussi chez les fous, c'est qu'ils mettent en crise la vérité. Le livre, il parle un peu de ça.
Mais j'ai l'impression que au fond, comme les prisonniers politiques, vous les voyez peut-être un peu comme des prisonniers politiques qui eux aussi mettent en crise la vérité parfois.
Oui, bah, en fait, ce sont eux qui m'ont appris ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un an passé là-bas, j'ai vraiment senti qu'ils se considéraient, eux, comme des prisonniers. C'est-à-dire qu'ils insistaient sur l'injustice de leur enfermement. Et en effet, ça m'a fait penser aux prisonniers politiques. Alors, dans le livre, je modifie un peu. Je dis peut-être que ce n'est pas tant des prisonniers politiques, mais que des prisonniers sociaux. En tout cas, ils ont dérangé un ordre social et donc la société a décidé de les mettre à l'écart.
Et j'ai l'impression qu'au fond, on leur ressemble de plus en plus. Hein, depuis qu'on a été confinés, depuis qu'on attend tous d'être piqués et que l'on risque d'être reconfinés. Au fond, vos internés, eux aussi, ils aiment leurs soignants. Eux aussi souffrent d'isolement, de désœuvrement. Eux aussi, parfois, se rebellent. Et notamment quand on veut les faire rentrer, parce qu'ils aiment être dehors. Et quand on veut les faire rentrer, c'est toujours un problème. Eux aussi se rebellent, au fond, en fonction des exigences sanitaires et sécuritaires.
Oui, alors quand même, je voudrais dire que pour l'isolement, j'ai été frappée de voir qu'ils vivaient souvent beaucoup mieux l'isolement que nous, parce qu'ils y sont habitués, et que ça, pour beaucoup, c'était une satisfaction de voir qu'ils n'étaient plus les seuls isolés de la société, et que tous les gens dehors étaient finalement dans la même situation qu'eux. Mais c'est vrai que la vie en hôpital psychiatrique, c'est une vie extrêmement normée, et que le quotidien de ces internés, donc internés contre leur gré, hein, j'étais dans une unité fermée, leur quotidien, c'est de saboter les règles, c'est de déjouer les normes, c'est de cacher des choses dans le plafond, c'est de faire dérailler la distribution des médicaments, c'est de mentir, c'est de sortir fumer une clope quand c'est interdit. Donc le quotidien est tellement répétitif, raide, ennuyeux, que sans cesse, voilà, on essaye de trouver des espaces de liberté.
Et on s'aperçoit en vous lisant que dans les hôpitaux psychiatriques aussi, les contraintes budgétaires sont devenues terribles. On supprime des lits, du personnel, on vend des terrains, on garde les patients le moins longtemps possible. Et c'est l'ordinateur qui décide pour tout. Hein. Les soignants suivent des protocoles, les soignants n'ont guère leur mot à dire. Il y a ceux qui ont le droit, parmi les internés, d'aller à la cafétéria, par exemple, et ceux qui n'ont pas le droit. Et c'est comme ça.
Et c'est comme ça, c'est la règle arbitraire. C'est vrai que depuis 20 ans, il y a une reprise en main du pouvoir administratif sur l'hôpital. Maintenant, le patron, c'est le directeur administratif, ça n'est plus le médecin. Et comme partout dans le service public, et en particulier à l'hôpital, on fait des économies. Donc on applique des protocoles, donc il n'y a plus aucune individualisation en fait, du soin. C'est-à-dire que les patients correspondent à des cases. Ils sont tous sur des tableaux Excel. Les soignants, dès qu'ils prononcent une parole, donnent un médicament, font un acte, ils doivent remplir un tableau Excel. Et que ça a pris toute la place et qu'il n'y a plus de marge de manœuvre. Les infirmiers s'en plaignent énormément. Il y a plus de possibilité d'improviser ou de déroger à la règle.
Alors, on pourrait s'imaginer, en prison, on sait qu'il y a des innocents, fatalement, c'est comme ça, la justice est une amène. Mais on disait que dans les hôpitaux psychiatriques, il n'y avait pas d'innocents. Il y avait des gens qui ne pensent pas être malades, mais qui le sont quand même. Or, il y a un cas, il y a une femme qui est là, véritablement par erreur, qui a été dénoncée par ses voisins.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup comme ça, d'ailleurs, de conflits de voisinage ou de problèmes familiaux, de haine ressassée qui termine par l'envoi en hôpital psychiatrique d'un des représentants du conflit. Parce qu'à partir du moment où la force publique a le droit d'enfermer, qu'on peut demander à un flic, à un préfet, à un maire d'enfermer, beaucoup vont régler. Beaucoup de gens privés vont régler leurs problèmes finalement intimes en demandant à l'autorité d'intervenir.
Elle a beaucoup de chance, hein, parce que ses voisins continuent de l'accuser, par exemple, de déféquer sur leur paillasson, alors qu'elle est déjà à l'hôpital psychiatrique. C'est là où on va se rendre compte qu'elle n'avait pas raconté de bobard, elle était véritablement persécutée par ses voisins.
Voilà, elle n'était pas paranoïaque comme on l'a cru, mais elle était vraiment persécutée. Et heureusement, la gardienne de l'immeuble, soucieuse de justice et d'équité, a appelé l'hôpital pour dire « mais c'est pas elle qu'il faut enfermer, ce sont les voisins
». Est-ce qu'ils guérissent ?
J'ai posé la question au médecin parce que moi, après avoir passé un an là-bas, je ne pourrais pas dire que j'ai vu des gens guérir. J'ai vu des gens aller mieux, puis aller à nouveau mal, puis aller mieux. Et c'est vrai que les médecins ne sont pas du tout d'accord sur la possibilité de guérir. Certains disent qu'on peut guérir. C'est vraiment une question de langage. D'autres vont dire qu'on peut stabiliser, on peut apaiser, on peut accompagner. Chacun emploie un terme différent, mais en règle générale, ils n'ont pas l'air de beaucoup croire à la guérison. Ils ont tous le sens de la défaite, d'une certaine façon. Donc on peut amoindrir et puis on peut être là pour que ce soit un peu moins violent, un peu moins difficile. Et puis il y en a pour qui ce n'est pas forcément une bonne option de guérir, quoi. Les médecins le disent. Certains, dans leur délire, sont protégés de souffrances beaucoup plus grandes. Et il vaut mieux parfois délirer qu'être désespéré. Donc est-ce qu'il faut vraiment guérir quelqu'un de son délire ? La question est toujours ouverte.
Ce serait quoi l'asile psychiatrique idéal pour vous ?
C'est peut-être mon travers d'écrivain, mais c'est un asile où le langage, où la parole a toute sa place, où on parle, on a le temps de parler, on ne se demande pas si c'est rentable de parler, combien ça coûte, on a de l'espace pour circuler. Et voilà, le temps s'étire pour que chacun puisse s'inscrire dans la durée qu'il souhaite. Mais c'est surtout la question de la parole qui a vraiment déserté l'hôpital psychiatrique et il est important de redonner du temps à la parole pour guérir, pour soigner.
À la folie, c'est votre 10e livre, Joyce Sormand, qui vient de paraître chez Flammarion.
Europe 1.
C'est arrivé demain est terminé. On se retrouve samedi prochain après le flash. C'est le grand rendez-vous Europe 1 avec CNews et les Échos, présenté par Mickaël Darmon. Qui est votre invité, Mickaël ?
Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts. Il est candidat pour rassembler les Verts, la gauche et les Français pour la présidentielle. Autant dire que son héros n'est pas Jupiter, mais plutôt Hercule.
Bonne émission et bon dimanche.